voilà les petites règles habituelles que vous connaissez par cœur. Vous savez que je vous avais précisé que les séances concernant la peinture espagnole seraient organisées par ordre chronologique. On a commencé par le Moyen-Âge. La fois dernière, on s'est intéressé au XVIe siècle. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser au... XVIe la fois dernière. 17e. 17e siècle. Hein, voilà. Une fois n'étant pas coutume, on va cette fois, non pas comme les fois précédentes où on a vu, même si parfois on insistait sur tel et tel artiste, hein, on a travaillé sur plein d'œuvres d'artistes différents. Cette fois, on va s'intéresser à un seul artiste, tout simplement parce que c'est le grand artiste espagnol du XVIIe siècle, et c'est Velázquez. Voilà, hein. La fois prochaine, on travaillera sur toujours le XVIIe siècle, mais sur d'autres artistes, même si peut-être on fera des petits retours du côté de Velázquez. Mais enfin, Velázquez est un peintre suffisamment important pour qu'on lui consacre vraiment une séance complète. C'est le cas donc de la séance de ce soir. Hein. Alors, on va commencer tout de suite par un premier exercice. En fait, si on essaie, j'ai enlevé une épaisseur, ce qui fait comme d'habitude une chaleur terrible dans cette salle, la première partie de cet atelier, qui en comprendra deux, va avoir pour but d'essayer de retracer la vie de Velázquez, voir un peu quelle a été sa carrière, une vie qu'on va illustrer d'un certain nombre de peintures. Et dans un premier temps, j'aimerais justement à la fois vous raconter très rapidement hein, la vie de Velázquez, et pour chacune des 6 parties de la vie de Velázquez, parce que la vie de Velázquez, grosso modo, hein, peut être découpée en 6 parties, c'est pas très compliqué, hein, on va regarder quelques œuvres très représentatives de chacune de ces périodes, et puis après, dans un deuxième temps, je vous passerai un pêle-mêle d'œuvres diverses du même Velázquez, dont vous aurez à la fois à deviner les sujets, bien sûr, mais aussi à voir à quelle période de la carrière du peintre elles peuvent se trouver. Mais aujourd'hui, j'ai été très sympa, j'ai pas mis d'œuvres d'autres artistes. Ce qui ne sera peut-être pas le cas la fois prochaine, où je pense que Velázquez s'invitera au milieu des autres peintres. Hein, mais puisque, à la fin de la séance d'aujourd'hui, Velázquez, pour vous, sera réglé, la semaine prochaine, vous n'aurez aucun problème pour retrouver les œuvres de Velázquez au milieu des autres. Nous sommes bien d'accord. Bien. Si je pensais qu'il était utile de faire un moment spécial sur Velázquez, c'est parce que c'est un petit peu... Vous savez que Velázquez, quelquefois, on l'appelle carrément hein, le prince des peintres. Hein, c'est un des grands peintres d'Europe occidentale. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Hein, mais c'est certainement, en tout cas, un des artistes les plus importants de ce qu'il est convenu d'appeler l'école espagnole. Et donc, je voudrais qu'on aborde sa carrière par... enfin, de manière tout à fait chronologique. Et j'aimerais que l'on regarde d'abord quelques éléments concernant la première partie de la carrière de Velázquez. Velázquez, d'abord, il est né en 1599. Il est né à Séville, comme vous le voyez ici. C'est quelqu'un qui est originaire d'une petite noblesse. Hein. C'est pas un peintre qui a mangé du chien enragé. Hein. Velázquez est quelqu'un qui naît dans une certaine aisance. Hein. C'est un artiste qui a eu comme professeur un peintre de Séville qui s'appelle Pacheco. Hein. Et Pacheco est donc le maître de Velázquez. Pacheco est un artiste maniériste. Vous savez, on en a parlé des maniéristes la dernière fois. Hein. Et c'est un artiste maniériste qui n'est pas absolument ébouriffant, peut-être, mais qui est un artiste tout à fait intéressant quand même, et qui surtout était un très très bon professeur. Et très vite, Pacheco ayant vu dans Velázquez tout jeune, hein, Diego Velázquez est entré dans l'atelier de Pacheco tout jeune, Pacheco a vu dans Velázquez un artiste en devenir qui, ma foi, avait quelques talents, c'est devenu son professeur préféré. D'ailleurs, Velázquez s'est marié avec la fille de Pacheco. Hein, voilà. Donc Velázquez est le gendre de Pacheco. Hein. Velázquez est le gendre de Pacheco. Voilà. Pacheco est le beau-père de Velázquez. Hein? Ok. Je me suis dit, aïe aïe aïe. Pacheco a une fille, et la fille de Pacheco se marie à Velázquez. Hein? Voilà. Comme ça, c'est clair. Hein? Voilà. Bien. Alors, on va regarder quelques œuvres de cette première partie. Les unes après les autres, on va essayer de déterminer quelles sont les sujets qui sont représentés et quelles sont aussi les caractéristiques de ces œuvres-là. Hein, c'est ça l'idée de cette première partie, d'observer, de voir quels sont les sujets et qu'est-ce qui caractérise, quel est le profil stylistique, je dirais, de chacune de ces parties. Voilà la première œuvre que je voulais vous montrer. Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, on peut déjà regarder. Alors, on ne va pas à chaque fois voir quelle est la matière. De toute façon, à chaque fois, c'est des peintures à l'huile sur toile. Hein. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Je ne vais pas non plus faire le coup de voir quelles sont les dimensions et autres. Ce sont à chaque fois des peintures relativement importantes. Il y en a des plus grandes, des plus petites. Mais on va dire que ce n'est peut-être pas l'essentiel. On va aller à chaque fois directement vers, un, le sujet, qui, quelquefois, est très simple à déterminer. Hein. Deux, ce qui caractérise la manière dont le peintre a traité le sujet. Le sujet ici, c'est quoi ? Une sorte de taverne, un repas. Hein. Donc vous avez trois personnes, trois hommes qui sont effectivement attablés. Bien. Maintenant qu'on a déterminé le sujet, que pour bien compliqué, hein, il y aura plus compliqué. Hein. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur la manière, la façon dont le peintre a traité cette œuvre ? La lumière, ouais. Donc c'est une scène complètement lumineuse, très lumineuse. Voilà, plutôt clair-obscur. C'est-à-dire c'est une scène très contrastée. Il y a un contraste très très fort entre des éléments très lumineux et des éléments qui ne le sont pas.
Elle est presque en camailleux. Il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de bleu.
C'est vrai que c'est... Alors, les photos ne sont peut-être pas idéalissimes, mais c'est vrai. Vous avez raison, on est là dans une palette colorée assez ténue, effectivement. Hein. Il n'y a pas une sorte de... Enfin, il n'y a pas des palettes inouïes. Hein. Donc c'est assez ténu comme palette colorée. C'est tout à fait juste. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre encore pour caractériser la manière, parce que représenter trois hommes qui dînent ou qui mangent autour d'une table, il y a mille manières de le faire. Hein. Qu'est-ce qui caractérise encore une scène comme celle-là ?
Réaliste.
Pardon ? Assez réaliste, effectivement. Hein. On a là vraiment des personnages qui semblent très caractérisés. Donc, on est avec quelque chose de très réaliste, oui.
Un peu en contre-plongée.
Un peu en contre-plongée, oui, effectivement. Ils ont l'air
assez joyeux,
rieurs, oui. Oui, visiblement, ils mangent quelque chose qu'ils aiment bien. Hein. Hein, vous avez vu, hein, il y en a un qui se tourne vers nous et qui dit ouais, c'est bon. Hein, hein. Donc il y a un côté joyeux, rieur. Moi, j'irais presque même plus loin. Pardon, oui.
Un peu trivial.
Un peu trivial. C'est-à-dire que c'est non seulement c'est joueur, etc., mais c'est presque un peu trivial. On n'entend pas ce qu'ils se disent, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient en train de défiler des verres. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. On est là dans une sorte de taverne. Hein. On a trois mecs qui sont en train de bouffer, c'est bon. Hein. Et on rigole, quoi. Hein. D'ailleurs, on boit, on mange, enfin voilà. Hein. Donc ce n'est pas un repas d'intellectuel autour d'une bûche glacée sympathique.
Il y a à peu près
on est là devant quelque chose d'un peu...
Les trois âges de la vie. Trois âges.
Oui, il y a effectivement trois personnages. Il est tout à fait possible, effectivement, qu'il y ait derrière... Il y en a trois, un, deux, trois. Il est en effet possible qu'il y ait là une manière d'évoquer, en plus, la question des âges de la vie. Hein. Un jeune, un peu moins jeune et un plus âgé, effectivement. Il y a même encore un petit détail que je trouve assez...
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc en haut ?
Qu'est-ce que c'est que ce truc en haut ?
C'est un col.
C'est un col. Oh, vous avez un col, oui, puis, ça.
Il y a la personne qui sème, c'est la servante.
Mais oui, mais on le voit.
Non, c'est la femme,
c'est un personnage.
Pardon ? Donc il y a un personnage dans le fond.
Mais oui, mais on le voit.
On le voit pas.
C'est la servante.
C'est un tête. On voit donc un personnage dans le fond avec un col et sa tête par-dessus.
C'est un masque, c'est le serveur.
Un masque ? C'est le serveur.
Oui, mais...
Il y a donc dans le fond un quatrième personnage, donc voilà la tête et voilà le col.
Ouais.
C'est
mais
ça
la tête...
La tête, moi je trouve que la tête elle est bizarre. Hein.
Oui.
J'ai pas l'impression que ce soit la tête. Hein.
On dirait l'oreille.
C'est pas la poitrine.
Quand c'est pas la poitrine.
Non, on dirait l'oreille.
Non, autrement, ce serait son caleçon et ce serait encore plus trivial. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça?
Et pourtant, la lumière est vraiment sur cette collerette, donc elle a de l'importance.
Ben, c'est tout simplement le chapeau. Il y a un chapeau qui est... Il y a un porte-manteau, si vous voulez. Hein. Il y a le chapeau qui est accroché sur le mur. En dessous, il y a la collerette. La collerette de l'un de ces individus. Enfin, quand on mange dans une caverne, on risque de tâcher un peu sa collerette. Hein. Vaut mieux, donc, là, poser sur le mur. Et puis, voilà, on ne se fait pas de tâche. Donc, effectivement, cet élément-là est un élément assez burlesque aussi, qui a l'air de créer une sorte d'épouvantail, si vous voulez. Hein. Un faux personnage. Hein. La tête serait un chapeau, la collerette, c'est une collerette. C'est un peu comme un troisième personnage, un peu burlesque, avec presque un sourire. Hein. Voilà, donc c'est une manière un peu rigolote, en quelque sorte, hein, de faire entrer un quatrième personnage, alors qu'ils ne sont que trois. Hein.
Mais c'est très centré, en plus.
Oui.
Il boit ou il mange un jambon ?
Il tient une bouteille. Il tient une bouteille, il me sent que dans sa main droite, je ne sais pas si ce n'est pas une pipe ou quelque chose comme ça. Hein,
alors, le bras qui est à côté du visage.
Et oui, c'est
le bras qui est à côté du visage, lequel ?
Le bras gauche.
Alors, ça, c'est ce personnage-là. Hein. Lui, ce personnage-là, c'est lui qui tient la bouteille. Hein. Il est derrière, comme ça, il tient la bouteille derrière. Hein. D'accord ? Voilà. Lui, en fait, on ne voit qu'un bras. Hein.
Bien. C'est plus audacieux, en fait.
Celui du fond, vous voulez dire ? Oui, on pourrait dire ça. Oui, allez, à boire, quoi. Hein, voilà, on rigole, quoi. Hein, bien. Ce genre de scène vous rappelle quoi ? Et cette manière de traiter cette scène ? Plus le côté nord.
Caravage.
Ou bien. Alors, ça peut rappeler soit la peinture du nord, hein, sauf que Velázquez est né quand ?
Oui, 1599.
1599. Hein. Et là, on est dans la période sévillane qui se termine quand ? Voilà. Donc, si vous voulez, la peinture nordique, telle qu'on a pu en parler l'année dernière quand on travaillait là-dessus, elle est à venir, elle n'est pas encore faite. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Alors, certes, il y a eu quand même dans la peinture nordique des gens qui ont un peu travaillé avec cette veine. Donc, vous n'avez pas tort de dire on est là dans une veine un peu nordique. Hein. Et effectivement, dès la fin du XVIe siècle, en Lande, en Flandre, il y a des artistes qui travaillent un peu dans ce genre de scènes, des scènes un peu quotidiennes, etc. Mais il y a effectivement un exemple encore plus proche, hein, et qui a eu un succès considérable dans tout l'Europe du temps, et vous l'avez cité, c'est Caravage. Caravage qui, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, révolutionne à partir de l'Italie la peinture européenne, et vous avez là vraiment une œuvre qui est complètement caravagesque. Alors, cette œuvre que vous voyez là, et je vous passe la notice, elle s'appelle donc « Trois hommes à table », elle date du début du XVIIe, hein, 1617, hein, et c'est une œuvre qui se trouve aujourd'hui au musée de l'Ermitage. Donc, je crois qu'on a bien caractérisé cette œuvre. Je voudrais vous en passer une deuxième.
Il a 18 ans.
Il a 18 ans, hein, il est donc tout à fait jeune. On est vraiment chez un artiste très, très précoce. Deuxième œuvre très caractéristique de cette première période sévillane. Alors,
toujours une scène quotidienne
au premier plan, effectivement.
Mais il y a un deuxième.
Et il y a un deuxième plan. Bon.
Ça fait plus flamand.
On dirait un tableau dans le tableau, hein, comme si. Alors, c'est un tableau qui est accroché sur le mur. C'est un miroir qui reflète la scène d'en face. Un miroir. Et si c'était tout simplement une espèce de fenêtre intérieure ouverte ?
Ah non, non, parce que le sol ne peut pas être à cet endroit-là.
Oh, ça peut être un sol un peu plus haut.
Non.
Moi, pour ma part, je pense que c'est plutôt ça. Hein. Mais je ne suis pas allé voir le tableau parce que voilà. Mais
il y a une personne qui a l'air de coiffer, la personne du milieu, et c'est vrai qu'elle travaille avec le bras droit.
Donc on a dans le fond une scène qui représenterait une scène de coiffure.
Mais c'est pas des hommes.
Oui.
Non.
C'est pas de la peinture.
Qu'est-ce que vous y voyez dans le fond ?
C'est pas quelqu'un qui peint.
Décrivez sans vouloir interpréter. Qu'est-ce que vous voyez ? Trois chats et un éléphant ? Trois personnages. Qui sont qui ? Qui sont quoi ? Ça, c'est quel genre de personnage ? Un vieillard.
Un ou une ?
Une femme. Vous avez une femme, là.
Une autre.
Une deuxième femme, là. Un homme, il a une barbe. Hein.
Mais c'est trois hommes, non ?
Ah non. Vous avez bel et bien une femme, une deuxième femme et un homme. Bien. Les trois âges à nouveau. Le mari qui regarde. Présente une jeune fille. Donc on est là vraiment dans une œuvre tout à fait triviale, avec devant deux servantes sont en train de préparer à manger, très très proche de ce qu'on a vu sur l'œuvre précédente, hein. Et dans le fond, une scène où peut-être le maître de maison est en train d'accueillir deux dames, dont une est agenouillée devant lui. Donc une sorte de scène des maîtres dans le fond et des domestiques devant. Ça vous va, ça ?
Il y a encore un autre...
Alors, il y a encore une porte derrière qui donne sur autre chose, effectivement.
On aperçoit de la lumière.
Ah bon ?
Oui, oui,
c'est à gauche. Je crois que c'est plutôt le dossier du siège. Hein. Ce que vous voyez là est plutôt le dossier du siège. Hein. Et si cette scène avait un sens ? Si cette scène n'était pas une scène si triviale que ça, ce serait quoi ? Si la scène qu'il y a dans le fond était non pour du tout une scène comme ça, ordinaire, où un bonhomme se fait présenter une dame en présence d'une troisième, mais représenter quelque chose de bien particulier, une scène qu'on peut tout à fait interpréter, ce serait quoi ?
C'est curieux le rapport entre les deux personnages devant et les deux femmes derrière.
Un rapport entre ces deux-là et ces deux-là.
Oui.
Non,
c'est pas
ça.
Oui,
c'est quelque chose de religieux.
Avec Marc et Marie.
Ah. Ah. Et si c'était la rencontre avec Marthe et Marie, vous connaissez ça ?
Bien sûr.
Ah, ben, peut-être dites-nous en deux mots l'une ou l'autre, hein. Quelle est cette histoire ? En deux mots, même si c'est pas... Vous vous rappelez un peu de la...
Oui, il y a
deux sœurs, Marthe et Marie, qui sont les sœurs de qui d'ailleurs ?
De Lazare.
Hein ? Vous connaissez l'épisode de la résurrection de Lazare. Quand Lazare ressuscite, ces deux sœurs, Marthe et Marie, assises à la résurrection, ce sont effectivement Marthe et Marie que vous voyez là.
Et c'est le Christ,
hein, qui est assis devant. C'est pas tout à fait une scène triviale et ordinaire. Et c'est encore moins une scène de coiffure.
Et Marthe dit qu'il faudrait dire,
voilà.
Le m'aider quand même.
C'est ça, hein, parce que le Christ vient dans la maison de Marc et de Marie. Il est donc décidé de faire un repas pour, inviter le Christ. Et Marie se met à parler de choses évidemment très, mystiques avec le Christ. Et pendant ce temps-là, Marthe est en train de travailler pour organiser le repas. Et à un moment, voyons que sa sœur est toujours à discuter avec le Christ, elle vient lui dire, écoute, bien gentil de discuter, mais viens peut-être m'aider en cuisine parce qu'il y a du boulot, quoi. Et le Christ lui dit,
Marie a choisi la meilleure part.
Voilà, c'est ça. Il lui dit effectivement, grosso modo, hein, ce qui est important, c'est pas tellement la nourriture, finalement c'est ça que ça veut dire, la nourriture terrestre, mais c'est bien la nourriture céleste, si vous voulez. Hein. En gros, écoute, laisse-nous un peu avec ta préparation du repas, ce qui est important, c'est plutôt de parler de ton salut, quoi. Enfin, bon, voilà. Donc ce que vous avez là, c'est ça. C'est-à-dire, vous avez là, au premier plan, une scène absolument triviale, hein, où il y a deux domestiques, un peu comme l'équivalent des gens qu'on a vus dans le tableau précédent, hein. Et dans le fond, vous avez une scène religieuse. D'accord ? Mais ce qui est amusant, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de curieux ? D'ailleurs, vous êtes tombé dans le panneau, si j'ose dire. Eh bien voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au premier plan, les servantes sont plus importantes, la scène religieuse est reléguée au deuxième plan. C'est-à-dire que le sujet du tableau, c'est pas le sujet qui est au devant, c'est le sujet qui est derrière. Donc ça, c'est effectivement un élément très, très particulier. On a autrement le même genre de traitement, hein, d'éclair-obscur, un côté très réaliste, ce qu'on a déjà vu dans le tableau précédent. Tout ça est vraiment très typique de la période sévillane de Velázquez. Hein. Ok ? Voilà. On continue. Facile.
Ah ben c'est marqué.
Saint-Paul. Facile, hein ? Donc ça, c'est Saint-Paul. C'est marqué, c'est pas du jeu, mais c'est comme ça, j'allais pas effacer Saint-Paul pour vous. Bien. Ça se fait pas. Qu'est-ce que vous pourriez dire quand même sur la manière dont est traité ce Saint-Paul ?
Les couleurs tout dans des dégradés, les couleurs chaudes.
Oui, des couleurs chaudes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'on a déjà d'ailleurs dit tout à l'heure précisément ? À propos des couleurs. Alors, on pourrait parler de la lumière, hein. C'est-à-dire qu'on a là aussi quelque chose de très.
Le visage et puis autour de lui.
Voilà. Donc, on a encore ce même rendu de la lumière, c'est-à-dire quelque chose de très clair-obscur. Le visage est très éclairé, le reste est plus sombre. Évidemment, le traitement des couleurs est un peu le même que ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas une palette colorée énorme, hein. C'est une palette colorée très, très courte, hein. Une sorte de camailleux, hein. Vous utilisiez le mot tout à l'heure. Bien. Donc, on est toujours vraiment Sévillan, avec cette même influence de qui, décidément ? De Caravage, toujours. Hein. Et puis, il y a quand même une autre chose qui est un peu curieuse.
On ne le voit pas du tout d'habitude avec un livre.
On le voit
avec un cahier. Enfin,
c'est vrai que Saint-Paul, généralement, n'est pas représenté avec un livre. Il n'y aurait pas marqué Saint-Paul, on ne pourrait pas le deviner. Hein. Généralement, il est représenté avec une épée. Hein. L'épée, oui. C'est l'attribut de Saint-Paul, parce qu'il a été décapité. C'est donc assez étrange, ça. Puis, il y a une autre chose étrange, moi, je trouve.
Alors, on dirait quelqu'un de l'époque.
Ben voilà. On dirait pas du tout, enfin, il n'y aurait pas marqué Saint-Paul, on dirait ben, c'est un mendiant dans la rue qui l'a pris comme modèle, quoi. Hein. S'il n'y avait pas marqué Saint-Paul, non seulement on ne pourrait pas le découvrir, parce que son attribut n'est pas celui de Saint-Paul habituellement, mais en plus, c'est vraiment un personnage qui a l'air de Monsieur Tout-le-Monde. Et un Monsieur Tout-le-Monde plutôt de la basse société que de la haute, si vous voulez. Hein. Vraiment, il n'a de Saint-Paul que le nom. Hein, voyez. Donc on est toujours dans cette même idée très réaliste, hein, qui est très typique de cette période sévillane de Velázquez. Hein, dans ce tableau, donc figurant Saint-Paul, toujours de cette même période. Ça, c'est quoi, ça ? Alors là, on tombe dans le religieux pur et dur. Hein, pur et dur. D'abord, ça représente quoi ? Oui, je ne sais pas.
Quand on regarde l'Apocalypse, un petit peu, mais alors, il n'y a pas les serpents.
Voilà, c'est un petit peu plus quelque chose qui fait penser à la Vierge de l'Apocalypse. On a l'impression qu'elle l'est plus déjà, entre guillemets, dans les cieux, qu'elle y monte, vous voyez ce que oui. Je veux dire. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas tellement d'anges pour la faire monter, enfin bref, on a l'impression qu'elle est plutôt installée, comme ça, dans une sorte de... Il y a une dimension un peu abstraite.
Est-ce qu'il y a Jérusalem en bas ?
Oui, il y a sûrement l'évocation de Jérusalem en bas, c'est bien vraisemblable. Ce thème-là se trouve beaucoup dans la peinture espagnole ou italienne du temps, d'ailleurs, surtout espagnole. C'est quel thème ? Ça évoque quoi ? D'ailleurs, regardez la Vierge, là aussi, si vous la regardez...
Elle a les deux étoiles sur la tête, c'est,
oui,
c'est le
absolument.
Thème.
Oui,
absolument. Le nuage aussi est très impressionnant.
Oui. Mais cette Vierge, quand vous la regardez, cette Vierge, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est très jeune.
Elle fait très jeune. C'est pour ça aussi que c'est pas trop l'Assomption. Hein, parce que la Vierge, elle ne monte pas aux cieux quand elle a 12 ans, si vous voulez. Hein. Voilà. Bon, là, elle fait quoi ? 12 ans, peut-être ? Voilà. Elle fait bien jeune. Donc c'est une sorte de Vierge abstraite, si vous voulez. Hein. Voilà. Trop jeune pour déjà être au ciel. Hein. Et puis, quand vous regardez ce visage, cette figure, qu'est-ce que... Je sais pas,
elle regarde la Terre.
Elle regarde la Terre, oui.
Elle prie,
sans doute. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire, encore une fois, de son visage, de sa figure même ?
Très humaine.
Pardon ?
Très humaine.
Très humaine. Hein. Là aussi, c'est un peu comme le Saint-Paul. On n'a pas l'impression d'une Vierge éthérée, idéalisée, vous savez. Hein. Voilà, elle a un côté très humain, quoi. C'est plus une gamine qui fait la Vierge qu'une Vierge un peu idéalisée, hein, qui montrait au ciel, hein. On est là, toujours, hein, dans cette époque sévillane, là-dedans, dans une volonté de, j'allais dire, faire descendre les dieux sur terre, enfin les dieux, entre guillemets. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein, de donner aux éléments religieux une tournure très, très quotidienne. Hein. Ce thème-là, c'est le thème de l'Immaculée Conception. Hein. C'est donc pas, encore une fois... l'Assomption de la Vierge, c'est le thème un peu abstrait qui met de côté, j'allais dire, l'âge de la Vierge. Enfin, c'est l'Immaculée Conception. Hein. Ce qui veut dire qu'elle a été conçue sans péché. C'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà, hein. Ça ne veut pas dire... Enfin, par parenthèse, elle va aussi concevoir sans péché, mais elle a été conçue sans péché. Donc, elle est l'Immaculée Conception. D'accord ? Donc voilà, voilà une autre œuvre religieuse effectivement, mais toujours marquée par ce côté très réaliste de l'Immaculée Conception dans le tableau en question. Voilà des œuvres donc de la période sévillane qui est la première période. Deuxième période. je vous dis deux mots, comme tout à l'heure, sur la deuxième période, très rapide, hein, mais écoutez-les bien, parce que ça va peut-être pouvoir vous donner quelques idées. Hein. Cette deuxième période, c'est la période où le peintre va à Madrid, il devient peintre de cour, une période qui va de 1623 à 1629. Il se trouve que, vous savez, Pacheco, le beau-père de Velázquez, et qui avait bien vu le talent de son élève, élève qui est devenu son, son gendre, le Pacheco, voyant encore une fois le talent de Velázquez, a tout fait pour qu'il monte à Madrid. Et il se trouve qu'un personnage très important se trouvait auprès du roi à l'époque, qui s'appelle le duc de Olivares, qui était d'ailleurs comte-duc, qui était en gros le premier ministre du roi, qui est Philippe IV à l'époque. Et Pacheco, connaissant Olivares, il va tout faire pour envoyer, si vous voulez, Velázquez à Madrid. Et Velázquez va ainsi pouvoir faire son entrée à la cour. Et très vite, Velázquez va peindre un portrait du roi Philippe IV. Le roi, immédiatement, va être stupéfait de la qualité de ce portrait et, immédiatement, va faire de ce jeune peintre son peintre officiel. Il se trouve que le peintre officiel précédent venait de mourir, la place était libre, Velázquez arrive, fait un portrait, le roi trouve ça bien, paf, Velázquez devient le peintre officiel. Tout ça, c'est fait, vous le voyez, très très vite. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est vraiment l'espèce de le côté assez facile de la vie de Velázquez. Hein. Vous verrez ça jusqu'à la fin. C'est pas quelqu'un qui a une vie compliquée, difficile, tonitruante, pauvre. Non, non, tout se passe toujours bien avec Velázquez. Ben, c'est le cas, vous le voyez ici. Pendant 40 ans, Velázquez et le roi vont avoir comme ça une sorte de lien très, très particulier et qui commence donc par cette période-là. Voilà, grosso modo, quels sont les faits et gestes de cette période qui est la période où le peintre est à la cour de Madrid entre 1623 et 1629. Voilà un premier tableau très typique de cette période. De quoi s'agit-il ? Un portrait de qui ? C'est le portrait de Philippe IV. C'est le portrait de Philippe IV. Qu'est-ce que vous pourriez dire au-delà de cette iconographie, de la manière dont le portrait est réalisé ? Pardon ? Oui, assez austère, assez strict, effectivement. Hein. Oui, il y a un côté assez austère, assez strict, oui. Qui d'ailleurs, est-ce que ça vous rappelle des choses ?
Assez recherché par la cour, par les rois, n'est-ce pas ?
Vous voulez dire le côté strict et austère ? Oui, c'est vrai. Et puis, il y a, pensez à ce qu'on a vu avant. Hein. On est dans la deuxième période. Une vie humaine, ça a des choses qui s'accumulent. Hein. Par rapport à ce qu'on a vu avant. Alors, c'est pas le peuple représenté, vous avez raison. Hein. Là, Velázquez, il passe des rues de Séville à la cour d'Espagne. Hein. C'est, voilà, c'est. Alors, plus classique, je sais pas si j'emploierais ce genre de manière de dire.
C'est plus posé.
Oui. Plus quoi ?
Plus posé, c'est pas pris sur le vif.
Alors, oui, voilà. Alors, oui, c'est vrai. On peut dire ça, c'est pas pris sur le vif. En ce sens, on peut dire effectivement c'est plus classique. C'est pas une scène de rue, de bamboche, comme on dirait, n'est-ce pas ? Oui. C'est pas pris dans la vie quotidienne, en quelque sorte.
Dans un environnement très neutre.
Un environnement très neutre, oui. Et justement, par rapport à ce qu'on a vu avant, qu'est-ce que vous auriez à dire ?
C'est pas royal du tout.
Le sujet n'est pas le même. On est devant un roi, on était devant le peuple. Bon, c'est pas du tout pareil. Hein. Mais par rapport à la manière de peindre, qu'est-ce que vous aurez ? Pardon ? Pas les mêmes couleurs ? Très blanc ? Oui, alors il n'y a plus vraiment le clair-obscur hein, qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Oui, d'une certaine manière, oui.
Mais
c'est pas réaliste ?
Si.
Moi, je trouve que c'est très réaliste. Regardez, alors, vous savez que un des gros problèmes de la dynastie royale en Espagne au XVIIe, c'est le problème de la consanguinité.
Hein, ah ben, savez, hein.
Et là, je crois que ça se voit de manière assez... On n'a pas fini de le voir, d'ailleurs. Hein. Donc, je crois qu'il y a vraiment une dimension très, très réaliste et qui est d'autant moins incompréhensible. Pourquoi ?
C'est un portrait ?
Oui, parce que c'est un portrait, mais aussi peut-être parce que... C'est un portrait. Mais justement, dans un portrait officiel, éventuellement, on met le nez un petit peu plus d'aplomb, on remet le menton un peu mieux, on enlève un petit bouton. Enfin, voilà, on fait quelque chose qui fait passer la pilule. Hein. Là, c'est vraiment pas le cas. Et finalement, ça ne nous étonne pas. Pourquoi ?
Et ils étaient pas.
Et puis qu'est-ce qu'il a fait avant? Dans la première partie de la pierre séviale, est-ce qu'il y a des choses très idéalisées?
Non.
On continue sur le même plan. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce que vous avez là, en fait, c'est un peu la continuation de ce qu'on a vu avant. Alors bien sûr, c'est le roi. Le roi, c'est le roi. Il n'a pas les mêmes habits. Il n'a pas les oripeaux du saint Paul de tout à l'heure. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais finalement, il y a la même idée d'une sorte de réalisme. Hein. Voilà. Hein. C'est-à-dire que tout à l'heure, on était dans la fange, là, on est dans les dorures. Mais ce réalisme total, il est toujours là. Alors c'est vrai, vous avez raison de dire que le sujet n'est pas le même, que la manière de traiter n'est pas non plus toujours la même. Il y a plus de lumière, il y a moins de clair-obscur, il n'y a pas le côté un peu âpre hein, de ce clair-obscur qu'on voyait avant. Hein. Cela dit, au niveau des tonalités, on ne peut pas dire non plus que ce soit super chatoyant. Hein. Non, il y a un peu de rouge, d'accord, mais tout le reste est bien grisou. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Il y a une sorte d'austérité, absolument. Hein.
On a
hein
l'impression de voir un repentir à gauche.
C'est possible, ici. Ouais. Oui. Oui, oui, ici.
Oui.
Là, il y avait sans doute une cape, quelque chose qui a été prévu, qui a été enlevé, hein, très vraisemblablement. Ouais. Ouais, ouais. En tout cas, on est finalement dans quelque chose qui va bien dans la droite ligne de ce qu'on a vu. C'est réaliste, c'est, j'allais dire, lancé assez ténu au niveau de la palette. Mais évidemment, ça présentait un roi, alors le sujet n'est pas le même, et puis quand même, il y a une recherche de luminosité qui est plus forte. Et puis à la réplique, il y a ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça représente?
Bacchus.
Bacchus. Au centre, vous avez Bacchus. Très caravagesque aussi. Très caravagesque aussi.
Donc il n'a pas renoncé.
Eh non. Mais d'ailleurs, dans le tableau précédent non plus, hein, Caravage, finalement, une des deux mamelles de Caravage, hein, celle qui est obscure, mais c'est aussi le réalisme. Hein. Bah, finalement, il continue. Hein, il continue. Hein. Alors, avec des évolutions, on va le voir, on n'a pas fini de le voir, mais voilà, on est toujours dans cette lancée-là. Alors, on a Bacchus, mais il n'est pas tout seul. Qu'est-ce qui se passe autour de lui? Pardon? Voilà, on boit, on rigole. Hein. Qui est-ce qui boit et qui rigole au cours de Bacchus?
Des paysans.
Des paysans.
Mais il y en a un qu'on, que Bacchus couronne.
Il y en a un qui est prosterné devant parce que Bacchus est en train de le couronner. Effectivement. Hein. Donc, finalement, Velázquez nous transporte dans l'Antiquité et nous montre une scène complètement antique où Bacchus, au milieu de paysans complètement antiques, est en train de rigoler de boire un bon coup. Ah, non.
Sauf qu'il y a quand même un autre personnage derrière.
Non. Pardon.
Oui.
Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est important de le remarquer. Hein. En fait, vous avez des paysans contemporains avec un Bacchus antique. Ça vous rappelle quoi, ça? Qu'est-ce que ça vous rappelle?
Tout à l'heure, la... Madeleine et Marie-Madeleine, enfin, etc.
Alors, voilà, ça rappelle tout ça. C'est-à-dire que ça rappelle à la fois Jésus et Marthe et Marie. Vous rappelez Jésus et Marthe et Marie? On avait au premier plan des servantes bien contemporaines, puis dans le fond, une scène du Nouveau Testament. C'est pas tout à fait contemporain, ça. Là, c'est pareil. Vous avez un Bacchus complètement antique, avec des buveurs. En espagnol, ce sont des borrachos. D'ailleurs, c'est comme ça que s'appelle le tableau en espagnol, los borrachos. Et vous avez donc des buveurs complètement contemporains. Il y en a qu'un qui fait un peu antiquisant, c'est celui-là, qui est assez dénudé. Mais celui-là, on dirait vraiment un vigneron espagnol, peut-être même contemporain, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc vous avez là une espèce de chose très étrange, assez caravagesque, effectivement, mais qu'on a déjà vu avec aussi le saint Paul. Hein. Saint Paul, quelque part, c'est un personnage du Nouveau Testament et qui est représenté comme un mendiant des rues, quoi. Donc cette espèce de conjonction de contemporanéité et d'antiquité, que ce soit dans le milieu de la religion chrétienne ou pas du tout, c'est quelque chose que, vous le voyez, il met volontiers en scène. Hein. Donc c'est une chose assez curieuse. Qu'est-ce que vous auriez d'autre à dire peut-être au niveau du style de ce tableau-là?
Plus coloré,
effectivement. Hein. On a là un peu plus de couleurs. Et... Voilà, donc les buveurs, los borrachos. Troisième période de la vie de Velázquez. On est à un moment où Velázquez va faire un petit séjour en Italie en 1629-30. Il fait un séjour en Italie. Il est vrai qu'était passé par Madrid un autre peintre que Philippe IV a fait travailler à Madrid, qui est Rubens. Et Velázquez a eu l'occasion de voir Rubens. D'ailleurs, le tableau que je viens de vous montrer a quelque chose d'un peu rubénien, hein, ce gros Bacchus un peu ventripotent. Hein. Il y a du flamand là-dedans. Hein. On sent bien que les deux hommes discutent. Et Rubens, d'ailleurs, semble bien être à la base de ceux qui ont dit à Velázquez, sinon, ce serait peut-être bien que tu traverses la Méditerranée. Tu arrives en Italie, ce qui se passe. Et Velázquez va aller en Italie. Il va aller à Gênes, il va aller à Venise, il va aller à Ferrare, à Rome, à Naples, etc. Donc, il va faire tout ça. Il va bien entendu faire pas mal de copies d'œuvres d'artistes du temps. Par exemple, à Venise, il va beaucoup copier Titien ou Tintoret. Hein. Et je vous montre ici deux œuvres de cette période italienne, de ces deux années que Velázquez part en Italie. Le roi lui a permis de se déplacer un peu en Italie, de séjourner en Italie. Et voilà une de ses œuvres de la période italienne. Qu'est-ce que vous voyez là?
C'est la forge de Vulcain, je crois.
Pas Vulcain.
Alors non, on a une forge, on aurait Vulcain?
Non.
Non. Ah.
On l'a déjà vu, celui-là.
Peut-être.
Oui.
Peut-être bien. J'avoue que je ne sais plus ce que je montre.
Si.
Mais à un moment, oui, je vous l'ai déjà montré, peut-être. Oui. Ouais, peut-être.
Mais il y a une...
Alors, donc on a une forge. Certains disent c'est Vulcain, d'autres non. Certains disent, tiens, il y a un saint à gauche, là.
Okay. Oh, non, mais on forge l'armure.
On forge une armure.
C'est un soldat qui vient se faire une armure.
C'est un soldat qui vient se faire une armure.
C'est une scène de la mythologie.
Une scène de la mythologie, mais laquelle?
Ben, les armes
d'Énée. D'Énée?
Ou d'Achille.
Donc ce serait... c'est l'épisode des armes faites pour Énée. Ça vous dit quelque chose, ça?
Ah oui, oui.
Ouais. Qu'est-ce qui... C'est quoi cet épisode? Effectivement, Vénus, qui est qui d'ailleurs, Vénus, par rapport? La mère de Déné. Et puis sa femme de qui, Vénus?
De Vulcain.
Vénus, c'est la femme de Vulcain. On utilise les mots romains, ce sera plus simple. Bien. Et effectivement, Vénus va demander à Vulcain qu'il forge des armes pour elle. Et il y a très volontiers, très souvent dans la peinture, représenté Vénus qui vient dans la forge de son mari Vulcain pour venir lui demander de faire des armes pour aider. Donc là, on a Vénus qui
est...
Ah, non. Alors c'est quoi, là? C'est un messager de Vénus. Un messager de Vénus qui vient dire Vénus veut... Moi, je trouve que Vulcain fait une drôle de tête. Parce que c'est bien Vulcain que vous avez ici. Ça, c'est Vulcain. Et moi, je trouve que Vulcain fait une drôle de tête.
Il est jaloux.
Ah, une histoire de trahison, laquelle?
Elle l'a trompé avec Mars.
Avec Mars. Vénus a trompé Vulcain avec Mars. Alors ça, ça fait pas plaisir. Et ça fait pas plaisir à Vulcain. Qu'est-ce qui vient dire ça à Vulcain? La mauvaise langue du ciel. Celui qui est toujours là pour piapiater. Ça pourrait, mais c'est pas. D'ailleurs, regardez sa tête. Pas Dionysos non plus. Dionysos aurait un ventre un peu moins plat. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure. Et pourquoi pas?
Il
a le soleil autour de la tête. Apollon, c'est Hélios, c'est le soleil. Hein. Vous avez là Apollon, il a même la couronne apollonienne sur la tête. Apollon solaire, qui vient dire à Vulcain, Héphaïstos, que Vénus le trompe. Voilà. D'où le fait que Vulcain, vous voyez, il n'est pas ravi à vie. Il gaffe. Là aussi, dans cette manière de représenter cette scène qui est une scène mythologique, qu'est-ce qui vous frappe au niveau de la façon de la représenter? Alors oui, ils sont tous interloqués. Celui le plus interloqué, c'est ça. Enfin, les autres sont aussi. Hein.
Bon. C'est encore les contemporains.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est encore. On est dans une scène mythologique. Il y a même un Apollon assez gréco-romain qui arrive. Hein. Le reste, c'est vraiment une forge dans l'Espagne du XVIIe siècle. Hein. Il y a toujours cette conjonction entre des éléments complètement contemporains et très réalistes, hein, jusque sur l'âtre de la forge. Hein. Et puis à côté de ça, une sorte de statue antique qui arrive en plein milieu, un peu comme le Bacchus dans Los Borrachos tout à l'heure. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez d'autre à dire au niveau de la manière dont c'est fait? Bon, il y a deux choses quand même qui me frappent.
Les corps sont super bien rendus.
Alors voilà, là, il y a de la chair. Hein. Voilà, hein. Il y a vraiment de la chair. On l'a un peu vu avec Bacchus tout à l'heure, un Bacchus bien rubénien, on l'a vu. Là, c'est autre chose. Et pourquoi soudain Velázquez se met à faire du nu comme ça?
Il a vu
l'Italie. Et en Italie, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben voilà, on voit les statues antiques, on voit des nus à tous les coins de rue, des statues en marbre qui figurent des Vénus nues, des Mars, que sais-je encore. Il y en a partout. Hein. Et puis la peinture italienne en est pleine aussi. Hein. Alors évidemment, ça lui ouvre les yeux et il le fait lui-même. Hein. Et puis il y a autre chose qui me frappe, au-delà de ce travail sur le nu, sur le corps, qui est vraiment une chose assez nouvelle hein, dans le travail de Velázquez. Qu'est-ce qui peut vous frapper aussi, je trouve?
Il y a un petit pan de nature, il y en a rarement.
Un petit peu de nature, effectivement, un peu de paysage. Jusqu'à maintenant, ce n'était vraiment pas trop le cas.
Non.
Sauf dans les borrachos, hein, les buveurs, un peu. Mais effectivement, jusque-là, tout ça était très plombé à l'arrière. Hein. En gros, c'était sombre à l'arrière et point à la ligne. Hein.
Là, il y a un vrai fond, en fait. À la
oui, il y a un vrai fond. Alors, il n'y en avait pas vraiment. Hein. Jusque-là, l'espace était, en gros, une toile de fond unie, puis point à la ligne. Hein. Là, il y a de l'espace. Il y a même l'espace qui s'ouvre sur un paysage arrière. Hein. Et puis, je trouve aussi qu'au niveau des couleurs, c'est quand même très différent. Hein. Là, on a notamment cette robe jaune là-devant, etc. On a une palette du bleu, enfin, on a une palette colorée qui commence vraiment à se diversifier. Hein. Rappelez-vous jusqu'au portrait du roi tout à l'heure, qui a été en gros un roi noir sur un fond gris, on ne peut pas dire que ce soit super coloré. Hein. Jusqu'à maintenant, on avait en gros quelque chose de très unicolore. Là, on commence à donner dans la couleur. Là, il va en Italie. L'Italie, c'est aussi ça. C'est aussi la couleur. Voilà. Les forges de Vulcain, 1630, on est en Italie. En deux mots, ça, c'est un portrait. Vous avez une idée de qui cela peut être? C'est une personnalité, c'est pas tout à fait une reine, mais pas loin. Enfin, si, je crois qu'elle a été reine. Oui, si.
Une des filles.
C'est une des sœurs de Philippe IV.
Alors, oui.
Marie de Hongrie. Donc, voilà un portrait. Marie de Hongrie était à Naples. Quand Velázquez y passe, il fait son portrait que voici. Voilà un portrait de Marie de Hongrie. Vous voyez que la veine portraitiste de Velázquez se poursuit. Mais arrivons à la quatrième période. Parce que Velázquez revient en Espagne. Et là, de 1630 à 1649, il est de nouveau à la cour de Madrid. Et quand je dis qu'il y est, c'est qu'il n'en bouge quasiment pas. Hein. Pendant ces quelques 20 années, hein, il ne bouge à peu près pas de Madrid. Hein. Mais le roi, de toute façon, ne jure que par Velázquez. D'ailleurs, Velázquez va monter dans les honneurs et de manière très habile. Hein. Parce que vous savez, la cour de Madrid, ce n'était pas de la tarte, si vous voulez cette expression. Hein. Évidemment, les intrigues de cour et tout ça, on a beau être dans l'Espagne du XVIIe siècle, il y a évidemment des dessous dans la cour. Velázquez va toujours réussir à passer de manière très neutre autour de ça, au-dessus de ça. Il a une vie finalement assez discrète. Le roi le couvre d'honneur de plus en plus, mais ça se passe bien. Et donc, Velázquez devient vraiment une personnalité épicurale de premier plan. Il l'était quelque part déjà, mais une personnalité également, je dirais presque, politique de premier plan auprès du roi. Bref, vous avez là, durant ces années-là, une sorte de montée en puissance de Velázquez, qui va même être nommé valet de chambre du roi. Valet de chambre, ça veut dire que ce n'est pas lui qui, tous les matins, passe la serpillière. Hein. C'est quelqu'un qui est, en gros, le garant de la vie intime du roi. Ça montre l'extrême proximité entre le roi et Velázquez. Et voilà quelques œuvres faites par Velázquez à l'époque. Ça, c'est quoi? L'ordre du portrait du roi. Vous connaissez Philippe IV. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut dire
Plus éclatant.
Plus éclatant. Hein. L'Italie est passée par là. Hein. On n'est pas du tout, on n'est plus du tout avec le portrait grisouille de tout à l'heure. Hein. Alors le roi a un peu vieilli déjà, hein. Il a des moustaches, mais on est là dans une palette colorée qui dit vraiment autre chose. Hein. Donc ça c'est effectivement Philippe IV, alors, roi d'Espagne.
Comme sur le premier tableau, il porte un papier, quelque chose,
oui,
à la main.
Oui, oui.
Ça veut dire
oui.
Quoi?
Alors, oh, ça c'est beaucoup une sorte de, comment dire, oui, enfin de, je ne trouve plus le mot de, Il faut lui donner une contenance, si vous voulez. Hein. Il ne va pas être là, les bras ballants.
Mais il n'y a pas de signification.
Alors, non, pas spécialement. Disons que ça montre, ça suggère, si vous voulez, que le roi, en gros, donne. Bon, c'est quelqu'un qui donne des ordres, hein, et il le fait face avec des écrits, si vous voulez. Donc, ça montre quelque part la dimension de lettré et d'homme politique qu'est le roi. Hein. Donc, à la fois, ça donne une contenance, et puis c'est un attribut qui, finalement, montre son niveau, pourrait-on dire. Hein. Alors, autre œuvre de cette période-là, celle-ci. De qui peut-il s'agir ? Alors, c'est son frère, en fait. Hein. C'est son frère. Velázquez va vraiment peindre tous les membres de la famille royale. Hein. Ça, c'est son frère, qui est effectivement, vous l'avez dit, en habit de chasse. Alors là aussi, qu'est-ce qui vous frappe peut-être dans ce portrait ?
Paysage,
hein, décidément, on l'a vu tout à l'heure, hein, on l'a vu avec Vulcain, je veux dire, tout ça s'ouvre, hein, on n'est plus du tout dans ce qu'on a vu au départ, c'est-à-dire c'est vu plombé à l'arrière, hein, complètement fermé, au coin, là ça s'ouvre, il y a un paysage de lointain. Hein. Alors évidemment, il y a toujours cette espèce de convention du personnage qui pose avec son chien, mais enfin, on est là dans quelque chose de beaucoup plus coloré, de beaucoup plus ouvert, dans ce portrait du frère du roi, le cardinal infant Don Fernando, qui a vraiment un faciès très typé de cette famille-là.
Un peu moins.
Un peu moins. Là, c'est un enfant. C'est, voilà. C'est le fils de Philippe IV, hein. Lancé au galop. Le cheval est gros. En fait, il y a une raison toute bête, c'est que ce tableau a été fait pour être vu très en hauteur. Voilà, c'est donc une sorte de déformation un peu volontaire. Mais par parenthèse, vous voyez quoi, là, encore, dans ce tableau-là ? Paysage, hein, tout ça s'ouvre complètement. Hein. On n'est absolument plus dans ce qu'on voyait au départ. Hein. C'est très, très clair. Hein.
Il y a du mouvement aussi.
Du mouvement aussi, absolument. On n'est plus dans le caractère figé, etc., de ce genre d'œuvre. Tout à fait.
Ah.
Alors, ça pourrait être un autoportrait, mais c'est pas...
Il n'est pas si vieux que ça.
Oui, c'est vrai qu'il ne voit pas. Il est
vieux. Qu'est-ce que c'est que ça, à votre avis ?
C'est un sculpteur.
C'est un portrait. Oui, c'est un portrait de sculpteur. Hein. Voyez en effet le personnage, il a devant lui un buste, et vous voyez la main qui passe derrière. Hein. C'est évidemment un sculpteur. C'était l'un des sculpteurs très en vue de l'Espagne du temps. Hein. Qui a été donc représenté par Velázquez.
Mais il fait de la terre cuite et pas de la
pierre. Oui, absolument. Là, ce qu'il a, c'est un outil pour faire de la terre cuite. Ouais.
Fait de la terre.
Ou de la terre, oui, il n'est pas encore cuite. Au mieux, parce que ça serait difficile. Voilà. Alors, ce sculpteur, il s'appelle Martinez Montanes, enfin Montagnès, précisément, il n'y a pas de tilde dessus. C'est compliqué à mettre, en tout cas, voilà. Vous pourriez dire quoi sur la manière de faire ici dans ce tableau ?
Non, on reprend un peu.
Oui, on reprend un peu, finalement, ce qu'on... Oui, voilà. Hein, on est là dans une sorte de... Voilà, c'est ça. De, peut-être de... Je vais presque dire de conservatisme du style antérieur, hein, mais qui est peut-être aussi une sorte de jardin secret. Hein. C'est un ami de Velázquez. Il le représente, non pas, j'allais dire, d'une manière un peu ouf, là, mais avec une sorte de côté direct qui est peut-être la dimension intime de l'amitié, quelque part. Mais on a là un tableau, finalement, qui peut un peu faire penser à ce qu'on voyait autrefois dans la carrière du Velázquez un peu plus jeune. Alors ça, c'est un nain, effectivement. C'est un des nains de la cour, absolument. Hein. Et là aussi, vous auriez à dire quoi ? Paysage, etc., ouverture, couleur, décidément, l'évolution est tout à fait claire. Hein. Ça, c'est El Niño de Vallecas, parce que vous savez que ces nains avaient un nom, mais c'est généralement un surnom. Hein. Ces nains avaient quel rôle ?
De
divertir, oui. Et puis peut-être pas que.
Et de dire un peu la vérité.
Voilà.
Douce.
Hein, ces personnages qui sont en fait des bouffons sont là évidemment pour divertir, mais c'est eux qui. Ils peuvent avoir une impertinence incroyable. Hein. Mais c'est les seuls. Hein. Eux peuvent dire des horreurs au roi, hein, au roi de la famille royale. Mais eux seuls. Hein. Mais eux, ils ont le droit. Ils ont donc un statut remarquable. Hein. Il y a eu d'autres cours d'Europe où on voit comme ça des... Oui. Par exemple, vous avez... Alors, en France, ça peut exister. Oui. Mais je pense à un autre territoire. Allemagne peut-être, Autriche peut-être. Mais il y a même un lieu où on voit encore l'appartement des nains. Vous ne connaissez pas ça ?
Non.
À Mantoue, au palais ducal de Mantoue. Au palais ducal de Mantoue, on voit encore l'appartement dei nani, l'appartement des nains. À Mantoue, il y a encore, et c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on a un petit... Oui, oui, on voit encore l'appartement, tout est petit, les petites cheminées, etc. C'est extraordinaire. Hein. Ça, il faut absolument aller à Mantoue. Hein. Voir l'appartement dei nani, c'est vraiment remarquable. Hein. À Mantoue, il y avait, à côté Mantoue, il y avait comme ça, au XVIe siècle. Ah ! On retourne quelque part au réalisme d'autrefois. Donc vous voyez que Velázquez, il n'a pas coupé les ponts complètement avec son passé. Hein. Voilà, il peut y avoir des allers-retours, du moins il garde hein, quelque part, un peu dans ses cartons, cette manière en scène. On voit quoi là ? C'est le dos, mes obsèques. Vous savez, moi, il faut tout dire. Parce que... Ah, voilà, hein, c'est le fameux fabuliste de l'Antiquité, l'inspirateur de La Fontaine, enfin, tout ça, vous connaissez. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur cet Ésope-là ?
C'était un esclave.
Oui ?
Il porte son livre.
Oui, il porte certainement ses fables, là. Oui,
il a
oui, 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 il est devenu effectivement. C'est quelqu'un qui effectivement avait, on pourrait dire, il a une drôle de tête, mais une bonne tête quelque part. Hein. Voilà, hein, on a envie d'aller lui parler quelque part, hein, surtout quand on sait ce qu'il a écrit. Hein. Mais qu'est-ce qui peut étonner, frapper, voire choquer dans un tableau tel que celui-là ?
C'est ça.
Voilà, c'est ça.
Négligé.
Voilà, un côté négligé, déplié. Là encore, c'est une sorte de clochard. C'est notre Saint-Paul de tout à l'heure. Hein. Hein. Il a vécu quand, Ésope ?
Lassitude.
Oui, lassitude aussi. Au XVIe siècle ?
Non.
L'Antiquité, hein ? Ça, c'est un costume complètement antique. Pas du tout. C'est toujours la même chose. Hein. Voilà un personnage, un écrivain de l'Antiquité, qui est présenté comme un clochard des rues de Séville au XVIIe siècle. Hein. Et un clochard de chez Clochard. C'est-à-dire qu'il est vraiment dégonillé. Voilà, les chaussettes se tombent sur les talons. Tout ça n'est pas très propre. Enfin bref, c'est pas la joie. Quoi, hein. Voilà. Donc vous avez un écrivain extraordinaire dont on parle encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et qui est présenté vraiment, en gros, le plus sage est présenté comme le plus pauvre. Quoi. Hein. Ça, c'est effectivement quelque chose qui nous rappelle les débuts de la carrière de Velázquez et qui se poursuit. Hein, avec ce tableau représentant les hommes. Et puis là, contraste. Alors ça représente quoi ? C'est le Christ. Le Christ à la colonne. Hein. C'est-à-dire, c'est quel moment de la passion du Christ, ça ? La flagellation. Hein, le moment où on le fixe à une colonne et on le flagelle. Alors là, il a été flagellé, il tombe de douleur. Hein.
Il y a des anges qui viennent le consoler.
Il y a des anges qui viennent le consoler. Il y a un ange. Il y a un ange qui vient le consoler.
Mais qui est l'autre ?
Mais il y a un enfant. C'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce qui se passe là ? C'est quoi ça ? Vous rappelez de cette histoire-là ?
Non.
Bon, de la flagellation, un gosse qui vient. Non.
Donc c'est une représentation.
De ?
Non, c'est pas la Vierge.
Non, mais qu'est-ce que ça peut être que cet enfant ?
C'est symbolique probablement.
Voilà.
Mais.
Alors, il y a effectivement là, mais ça ne vous étonnera pas chez Velázquez, hein, un élément, j'allais dire, relativement factuel, le Christ à la colonne flagellée, et à droite, un élément symbolique. Hein, c'est-à-dire deux éléments qui vont pas forcément ensemble, mais qui là sont ensemble. Mais on est habitué avec Velázquez. Hein. Rappelez-vous tout ce qu'on a vu, les Los Borrachos, etc. Le Christ chez Marthe et Marie, etc. Ce genre d'association-là, c'est fréquent chez lui. Qu'est-ce que ça peut être cet ange avec ce petit enfant qui vient ? Ouais, c'est quelque chose comme l'ange gardien. Il garde quoi, l'ange ?
Il éduque
l'enfant. Voilà, il éduque l'enfant. Et c'est... En fait, cet enfant que vous avez là, c'est la représentation symbolique d'une âme chrétienne. Hein. Si vous voulez, l'ange, il est avec une âme chrétienne qui est... Vous savez que l'âme, dans l'iconographie ancienne, l'âme d'un mourant est représentée comme un enfant. Peut-être qu'on en a parlé déjà ici. Hein. Oui, on a parlé. Hein. C'est plus ce que je dis, moi, à un moment. Mais voilà. Donc, effectivement, l'âme est généralement représenté comme un enfant. Ben là, c'est un enfant, c'est une âme chrétienne qui, amenée par un ange, voit le Christ à la colonne souffrant.
C'est
celle de guerre, de reddition. Celle de Hitler, pardon.
Il remet les clés de la vie.
Voilà, absolument. Donc ce tableau s'appelle la reddition de la reddition de Breda. Hein. La reddition de Breda. La ville de Breda en Hollande vient de tomber. Les Espagnols l'ont prise. C'est le moment où, en effet, les vaincus remettent aux vainqueurs les clés. Hein. Toujours remarqué ce geste très, vous voyez, bienveillant du vainqueur face au vaincu. Bien. Hein. Là aussi, stylistiquement parlant, on dirait quoi paysage, décidément. Hein. Ouverture.
La composition avec ses. La composition avec ses.
Oui. Les lances. Et vous savez, ce tableau, vous avez raison de voir ça, hein, de voir cette composition très très avec les lancers, parce que ce tableau, son surnom, il s'appelle la Reliquiforme de Breda, la Reliquiforme de Breda. Mais en fait, son surnom, c'est las lanzas, les lances. Hein. À cause de ça, effectivement, hein, vous avez là un tableau, d'ailleurs, les lances d'un côté avec les autres armes de l'autre qui lui le répondent. Effectivement, ce tableau est très 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 organisé, mine de rien. Hein. Et vous y voyez à nouveau toujours le réalisme hein, que l'on retrouve depuis le départ chez lui, hein, mais avec effectivement la couleur, l'ouverture, etc. On voit bien, n'est-ce pas, cette évolution, je crois, très très visible de Velázquez dans sa bouquet. Il vient de quoi ce tableau? Velázquez l'a fait un peu comme les tableaux qu'on a vus par ailleurs. Il est produit de quoi? Velázquez un jour s'est dit, tiens, je vais faire le tableau.
Non, c'est une commande.
Hein, c'est vraiment une commande.
Le petit papier blanc à droite en bas, oui, c'est quoi?
C'est un cartel. C'est-à-dire quelque chose qui. Je crois qu'il y a marqué. Je peux plus vous dire. Voilà, c'est ce qu'on appelle le cartel. Non. Je crois que c'est quelque chose qui dit à la fois ce que c'est. Il y a peut-être même la signature et la date dessus. Avant-dernière période, un second séjour en Italie. Il se trouve qu'en 1649-51. Velázquez repart en Italie. Il y a un prétexte qui tombe bien pour Velázquez, c'est que le roi veut qu'il ramène d'Italie des marbres antiques pour décorer les palais espagnols, qu'il fasse faire des copies de certaines statues qui ne sont pas déplaçables, et puis il faut trouver des fresquistes pour travailler dans les palais espagnols, faut acheter du tapisserie, enfin bref, il y a plein de boulot. Hein. Donc il envoie bien sûr Velázquez, hein. Après tout c'est le valet de chambre, hein, en Italie pour ça. Et donc Velázquez va y rester, vous le voyez, 3 ans. Visiblement, il va avoir un petit peu de mal à revenir. Hein. Il va falloir que le roi, au bout de 2 ans et demi, ordonne à Velázquez de venir pour qu'il revienne. Hein. Il est vrai que Velázquez est un petit peu installé en Italie. Il a même eu un enfant illégitime en Italie, mais ça reste entre nous. Hein. On ne le dira pas. Hein. Il a eu, à vrai dire, un certain succès. Voilà quelques-unes des œuvres qu'il a réalisées en Italie. Ceci, c'est quoi? Un portrait. Un portrait de qui? D'un noir. Ce noir, à votre avis, ça peut être qui?
Oui, Saint Maurice.
Pardon?
Saint Maurice.
Un quoi?
Saint Maurice habillé.
Ah oui, ça pourrait être Saint Maurice, vous avez raison. Hein. C'est pas. Oui, ça pourrait. Vous avez raison, ça peut être Saint Maurice, c'est-à-dire un mort habillé et représenté comme monsieur tout le monde. Hein. Ce serait tout à fait possible. C'est pas.
C'est un noir.
Il domine d'ailleurs.
Oui. Vous avez une idée de qui il peut être?
Non.
Pas du tout.
Je vais vous mettre sur la voie. Qui pourrait être l'être par rapport à Velázquez? Son hôte. C'est-à-dire, c'est lui qui l'aurait reçu en Italie. Non, son
valet.
Son valet. C'est son valet, c'est même son esclave. Oh. L'esclavage existe encore en Espagne à l'époque. Hein. En fait, ce personnage, c'est l'esclave de Velázquez, hein, Juan de Pareja, qui est donc l'esclave de Velázquez. Alors là aussi, stylistiquement, vous auriez à dire quoi?
Belle allure.
Belle allure, hein. Beau tableau, hein. Oui, ah oui, bien habillé. Enfin, Velázquez est un personnage, en plus, qui est de plus en plus riche. Hein. Au moment de l'inventaire après l'essai de Velázquez... c'est quelqu'un qui était riche, hein, qui avait des joyaux, etc. Donc, à mon avis, c'était assez bien d'être l'esclave d'Escalade. Je pense qu'il n'avait pas trop à se plaindre. Hein. De son statut, sans doute, mais pas trop de sa condition. Hein. Vous remarquez là, entre parenthèses, que, un peu comme dans le portrait du sculpteur tout à l'heure, Velázquez, pour ses tableaux un peu intimes, garde cette espèce de marque presque originelle, hein, cette espèce de côté très, avec une palette très resserrée. Enfin voilà, hein, on retrouve cette idée-là. Et alors là, le pape, Velázquez, quand il vient à Rome, enfin en Italie, et à Rome en particulier, il n'a qu'une idée, parce qu'il est quand même un peu ambitieux, Velázquez. Hein. En Espagne, il est le peintre du roi, alors il faut qu'il peigne le pape. Hein. Bon, enfin, on ne peint pas le pape comme ça, attention, hein, ça se fait. Et alors, pour attirer l'attention sur lui, sachant que quand il arrive, Velázquez, à Rome, il ne connaît pas grand monde, hein, il va peindre son esclave. C'est le tableau que vous avez vu avant, Juan de Pareja. Et il va exposer ce tableau à Rome, et ce tableau va faire tellement de bruit que ça va aller, si vous voulez, jusqu'aux oreilles du pape, et le pape va demander à ce qu'on fasse son portrait. Et le voilà. Donc, le portrait du pape. Oui, il a un papier. Alors, le pape, c'est Innocent X. Pardon ? Oui, absolument. Bacon s'est complètement inspiré de ce tableau-là, de la galerie Doria Pamphili. Hein. Francis Bacon, effectivement, a fait tout un cycle autour de ça. Et là aussi, en termes stylistiques, vous auriez à dire quoi, par contre ? Voilà, là on est par contre, donc ils sont assez colorés. Le pape, il a ses habits rouges, etc.
Il a un sacré regard.
Oui, effectivement. Hein. Ouais, oui. Ben, vous voyez que la dimension très réaliste et sans concession, elle est toujours là. Hein. C'est vraiment très visible. Oui, encore un portrait très réaliste. Ça, je vous dis, là, vous ne pouvez pas le deviner, mais c'est assez rigolo, c'est le barbier du pape. Parce qu'une fois que le pape va être portraituré par Velázquez, tout le monde va y passer, si j'ose dire, à la cour pontificale. Hein. Par exemple, le barbier. Voilà, ça c'est le barbier du pape. Alors c'est pareil que pour les valets de chambre du roi, le barbier c'est pas simplement celui qui rase le pape, hein. C'est celui qui organise une certaine intimité papale. Hein. Parce qu'évidemment il vaut mieux avoir confiance en son barbier, si vous m'excusez. Ouais. Donc le barbier c'est vraiment un homme de grande confiance et Velázquez va faire son portrait. Et voilà. Absolument. Ça, c'est un tableau tout à fait incroyable de Velázquez, hein, qui annonce absolument 18e. On n'est pas devant un tableau du Hubert Robert, on est devant un tableau de Velázquez. On est dans la première moitié du 17e siècle, c'est incroyable. Hein. Incroyable pourquoi ? La nature, les ruines, la végétation, et puis la touche. Vous avez vu comment c'est peint, ça,
hein?
La façon de peindre, léger, hein? Vrombissant, hein? C'est pas, on est là devant un truc, effectivement, très impressionniste, quelque part. Hein? On est là devant une peinture absolument étonnante. Ça présente quoi?
Un paysage.
Un paysage. On est où? Oh, un lieu que vous devez connaître.
En Italie.
En Italie, puisque là on est en Italie, effectivement, hein, en Italie, à Rome. Est-ce que ça vous rappelle un lieu à Rome très connu des Français ?
La Villa Médicis.
La Villa Médicis. Vous êtes à la Villa Médicis. C'est la loge d'Ariane. D'ailleurs, vous voyez la statue d'Ariane couchée, abandonnée, hein, statue antique très célèbre. Hein. Là, qui est ici, c'est la loge d'Ariane, la Villa Médicis. Extraordinaire paysage de Velázquez. Alors, ben oui, c'est fait très très légèrement, très rapide.
C'est pas
une débauche. Oui, il y a un côté, comme on dit en italien, fa presto, c'est fait rapidement. Hein. Il n'a pas mis 3 heures, voilà. Alors, on discute beaucoup pour savoir s'il est plutôt du deuxième voyage italien, celui dont on parle là, ou du premier, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on parle plutôt sur le deuxième, le second, mais voilà, il y a un peu de discussion autour de ça. Et puis, on en termine, parce qu'après, je voudrais bien qu'on aborde l'autre point, la deuxième, la seconde partie. C'est la fin, c'est-à-dire que Velázquez va quand même, en 1651, revenir à Madrid, parce que le roi lui dit, bon, ça a assez duré, il faut revenir, donc il revient. Et là, c'est, j'allais dire, le comble des honneurs. Il va être nommé précisément maréchal du palais, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, ce que jamais aucun peintre en Espagne n'a eu comme honneur. il est donc vraiment au comble de sa carrière, hein. Ce qui va d'ailleurs lui poser des problèmes, parce que Velázquez, si vous voulez, a tellement d'honneur qu'il a aussi beaucoup de responsabilités. C'est lui, par exemple, qui doit s'occuper de suivre le décor des palais royaux. C'est lui qui accroche la collection de tableaux du roi. Et puis, quand il y a venu d'un grand souverain, c'est lui qui doit s'occuper de tout. Quoi faire, etc. Au bout d'un moment, Velázquez, il fatigue, hein. D'ailleurs, il va être envoyé par le roi Philippe IV, parce que je vous rappelle quand même que bientôt, on organise le mariage de la fille du roi avec Louis XIV. Hein. Et il y a d'ailleurs, je crois, un film qui les deux princesses. L'échange des princesses, hein, qui se joue bien actuellement. Bien. Et c'est Velázquez qui va aller à la frontière, hein, pour préparer l'entrevue des deux souverains, Louis XIV et Philippe IV, et c'est lui qui doit voir que tout est organisé, qu'il y a des tapisseries où il faut, des tableaux où il faut, que le mobilier ça va, etc. Tout ça, c'est du boulot. Hein. Et donc, en cette année 1660, il va au nord de l'Espagne pour organiser tout ça. Il est fatigué, il est crevé. Il rentre à Madrid en 1660, complètement fatigué, il attrape la grippe, il meurt peu de temps après, et sa femme une semaine après lui. C'est-à-dire qu'on a là une vie un peu brutale de Velázquez qui, comblé d'honneur, soudain s'écroule du fait d'une espèce de trop plein d'honneur qu'il fait complètement. Il ne peut plus, quoi. Alors, il va, le corps ne va pas suivre, et Velázquez donc meurt en 1660, mais couvert de tous les honneurs qu'un peintre peut rêver. Alors voilà quelques tableaux de cette période-là. Alors c'est quoi ça? Ah, c'est pas Ménine, ça veut dire quoi?
C'est un tableau spécial.
Ah, c'est pas Ménine, c'est pas les enfants, attention.
Là, c'est Ménine. Les enfants.
Voilà. Hein, les Ménines, c'est les servantes, si j'ose dire. Hein, c'est les gardes, c'est les nounous, entre guillemets. Enfin, bon, hein, voilà. Donc ça, c'est pas Ménine.
Non, c'est
l'enfant.
Voilà. C'est une
enfant. Alors, c'est plus qu'une enfant.
La reine.
C'est la reine. C'est la reine. Hein. C'est la femme de Philippe IV. Hein. Qu'est-ce que vous diriez concernant cette œuvre? Oui, hein. Oh là là.
Elle n'est pas gay.
Pardon?
Elle n'est pas gay.
Non, c'est pas gueugueu. Hein. On n'est pas chez les borrachos choses de tout à l'heure. Hein.
Oui, mais alors, le décor est beaucoup plus somptueux que dans tout le monde.
Il y a le décor se tait, oui. La coiffure est assez sombre. Ah oui, c'est... Oui, tout ça est assez conventionnel.
C'est
pour
ça qu'il avait un rideau.
Oui. Oui. Ah ben, elle, pas trop, oui. Et ça, c'est une enfant, c'est une des filles. Hein. Voilà, c'est une des filles. Et qu'est-ce que vous diriez là aussi?
Bah,
pareil,
hein.
Pareil, c'est-à-dire une sorte de statue humaine, hein, bloquée, rigide, hein, une sorte de divinité presque.
Pour jouer à la marelle, hein, pas facile.
Ouais. Oui, un peu compliqué. Oui. Marguerite Thérèse. Hein. Et voilà, c'est un tableau qu'on appelle les Minéas. Vous savez ce que ça représente, hein? Qu'est-ce que vous avez alors dans ce tableau?
Très compliqué.
Très compliqué. Alors il y a le peintre, il est là. L'autoportrait, Velázquez, hein?
Il y a un miroir.
Il y a un miroir.
Alors, les parents, je crois.
Et dans le miroir, c'est le roi et la reine. Hein?
Et puis,
comment ils sont où, le roi et la reine? C'est vous, le roi et la reine, hein, et vous vous reflétez là. Certains disent qu'en fait, c'est peut-être plutôt le reflet du tableau que Velázquez est en train de peindre, qui peindrait le roi et la reine, qui sont donc là où vous êtes, hein, et ça, ce serait le reflet du tableau. Bon, en tout cas, c'est le reflet du roi et la reine qui sont là où vous êtes.
Hein. Et le personnage qui s'en va.
Il y a... Voilà, il y a une naine qui est là. Hein. Il y a les Ménines.
Et le personnage qui s'en va.
Pardon, oui.
Alors, ça, c'est le...
Il y a un personnage qui s'en va derrière. Ça, je n'ai plus son nom en tête. C'est un personnage qui fait partie de l'antichambre de l'infante. Hein. Il y a un gros chien. Toujours avoir un chien. Hein. D'accord. Hein. Toujours avoir un chien. Ça, c'est obligatoire. Hein. Si possible, deux. Et puis, il y a aussi la douane.
Ah.
Il faut une nonne quelque part, hein. Ça c'est nécessaire. Et puis il y a même un autre personnage là, hein, qui fait partie de l'entourage de la jeune princesse. Hein. Voilà. Donc effectivement, qu'est-ce que vous voyez dans cette œuvre-là qui est assez étonnant finalement ?
Ce qui est frappant, c'est les regards qui ne sont jamais dans le même sens.
Oui, ça va un peu dans tous les sens, d'une certaine manière, oui.
Il s'est représenté quand même, lui.
Oui, alors, c'est un autoportrait. Ouais.
Il a mis le roi et la reine sont tout petits derrière.
Oui, oui, oui. Oui, effectivement, on pourrait dire que c'est assez étrange. Le roi et la reine sont réduits à un reflet dans le miroir, alors que lui se représente, lui, il nous regarde, hein, tout comme la naine qui est ici. Hein.
Ce tableau, il est en deux parties. Il y a le bas qui est...
Oui, c'est vrai. C'est un tableau, il y a une sorte de frise en bas, mais il n'y a rien en haut. Hein.
Les personnages sont pas plus de place entre guillemets que les nains et les servantes.
Oui, oui, absolument. Oui, oui.
Oui, mais tout centre quand même.
Oui, elle est au centre.
Oui.
Elle
a
la lumière. Il y a aussi la lumière.
Elle est très éclairée aussi, ouais, en fait. Hein.
Ils vont par deux.
Ce qu'il y a de curieux aussi, c'est quand même le jeu de plans. Hein. Ouais, vous avez à la fois... je pense dire qu'il y a un plan qui n'est pas dans le tableau, parce que c'est nous, mais nous, dont on voit le reflet là. Il y a là un plan qui s'en va derrière. Il y a le plan du tableau, mais qui, quelque part, nous concerne, parce que le peintre est en train de nous regarder. Enfin, il y a une sorte de... Comme ça, dès les venues des plans, alors on pourrait croire que ça c'est une porte, mais non, c'est pas une porte, c'est un miroir, ça c'est une porte, c'est pas un miroir. Enfin, vous voyez, il y a comme ça une sorte de. Et puis là-haut, il y a des trucs qui sont des tableaux, donc c'est. Voilà, donc il y a une espèce de multiplication des plans qui fait que. Waouh, il y a comme ça une espèce d'espèce de perspective et inversée, parce que là, c'est une perspective qui va là, celle-là, elle va dans l'autre sens. Enfin, voilà, donc une espèce de dynamique, si vous voulez, du tableau qui est très dans une construction générale de ce tableau, on est loin de ce qu'on voyait au départ. Hein. C'est-à-dire trois gus devant un plan, justement. Hein. Donc, tableau ultra célèbre, effectivement, les Médées. Bien. Alors maintenant, que nous savons tout sur la vie de Velázquez, nous allons très facilement pouvoir voir comment, moi je ne vois plus rien par contre, mais comment... à partir d'une petite vingtaine de tableaux, nous allons pouvoir les répartir dans la vie et l'œuvre de Velázquez. Vous avez vos 6 parties en place, en tête, c'est bon ? 6 parties, c'est pas terrible. Hein. Ça commence bien. Hein. Vous n'êtes pas obligé de oui, alors vous pouvez parler de telle partie, mais si ça vous rappelle une œuvre, n'hésitez pas à le dire. Hein. Le début, le Saint-Paul.
Il a les bottes des os.
Il a. Alors, Ésope, il avait plutôt d'ailleurs des chaussettes qui ne tenaient plus trop. Hein. Mais enfin, je trouve que ça ressemble un peu, effectivement. Hein. Qu'est-ce qui ressemble un peu à Ésope encore là d'ailleurs ?
Les cahiers.
Bah oui, il y a les cahiers, le jambillard, et puis même au-delà de ça.
Il est sympathique.
Non, plutôt sympathique, il a une bonne tête. Hein.
Donc, c'est pas au début.
Il ne fait pas de riche non plus, il est un peu clodo celui-là aussi, comme Ésope. Hein. Et puis d'ailleurs, la manière de faire de ce tableau, qu'est-ce qui frappe, je trouve, par rapport à Ésope ? Ben, Ésope, il était pareil. C'était un personnage tout droit, debout. Si vous voulez, il n'était pas assis, etc. Vous avez la même posture, ce n'est pas le même bonhomme. Mais voilà, il est debout, etc. D'ailleurs, si vous regardez bien, mais ça se voit mal. Ça se voit même très mal. Dire que quelquefois, ça se voit tellement que vous le voyez. Enfin bref. En fait, il y a marqué en haut, ici, Ménip. Ménip, ça vous dit quelque chose ?
Oui, l'Antiquité.
Voilà. Hein ? C'est un philosophe grec, oui. Cynique. Hein ? Et d'ailleurs, regardez-le, il vous regarde avec un tuteur. D'ailleurs. Enfin bref, il s'amuse de nous. Hein ?
Oui, mais c'est pas le début. Ça.
Pardon ?
C'est pas la première, mais c'est pas au début de sa carrière.
Non. C'est un tableau qui est le pendant d'Ésope. Ces deux tableaux allaient ensemble. Vous avez deux philosophes ou écrivains, Ésope et Ménippe, tous deux sont représentés debout. Vous voyez, tous deux d'ailleurs avec derrière, on avait vu comment, même tardivement, ils pouvaient revenir à des formes anciennes. Et bien, c'est le cas dans le tableau en question.
C'est après son premier tour d'Italie ?
Oui. Alors ça ressemble absolument à Jésus chez Marthe et Marie. On est d'accord. Hein. Donc vous avez raison, ça c'est un tableau absolument de la première période hein, qui nous fait beaucoup penser à Jésus chez Marthe et Marie.
Ah ben ça c'est...
Encore le Dénat, hein. Voilà.
C'est la dernière période.
Oui, alors c'est voilà, c'est... Vous rappelez, hein, le Niño de Vallecas, qu'on a vu tout à l'heure, hein. Ça rappelle
L'Italie.
Ça, alors ça présente quoi, ça?
C'est une scène,
et qu'est-ce qui se passe?
On file la laine.
Hein. Donc on est en train de filer la laine. Hein.
Ce ne serait pas les parcs.
D'ailleurs, ce tableau, il s'appelle Les Fileuses. Ça pourrait faire penser aux parcs, évidemment. Vous savez, les parcs, hein. C'est d'ailleurs quelquefois une des interprétations qui est donnée au tableau, sauf qu'elles sont trois normalement là, il y en a plus.
Ouais.
Et puis il y en a au fond. Qu'est-ce qui se passe au fond?
Mais ça représente une tapisserie.
Au fond, on voit une tapisserie. Il y a une porte qui est ouverte. Il aime bien ça. Hein, hein. Il y a une porte qui est ouverte et on voit derrière une tapisserie. Que une tapisserie?
Non, il y a des personnages.
Il y a des vrais personnages qui regardent une tapisserie. Ce qui fait qu'on ne sait pas très bien qui regarde la tapisserie, qui sont les personnages. Les personnages dans la tapisserie, enfin, c'est compliqué. Mais quand on regarde bien, on voit effectivement une, deux, trois personnes qui regardent la tapisserie qui est derrière. Vous voyez un peu quelque chose dans la tapisserie?
Des
angelots, il y a des petits poutis, effectivement. Hein. Là, vous voyez quoi? Un soldat avec un casque. Hein. Et puis là, une femme. Alors, c'est vrai que ça pourrait évoquer une histoire de Vénus. À vrai dire, là, ça va être très dur pour vous de trouver exactement ce dont il s'agit. À vrai dire, je suis obligé de vous raconter ça, parce que là, vous n'allez pas pouvoir le deviner, c'est trop difficile. Ce qui est présenté dans le fond, c'est l'histoire d'Arachné. Vous connaissez l'histoire d'Arachné? Qu'est-ce qui se passe?
L'histoire
de jalousie. Et qu'est-ce qui se passe exactement avec Arachné?
Elle fait mieux que Athéna.
Non, que Athéna, hein, que Minerve. Quoi, hein. Elle fait mieux. Qu'est-ce qu'elle fait mieux, Arachné? Pardon?
Elle file.
Comme ça. Hein. Elle file. Arachné, elle est comme ça. Hein. Et un jour, elle se moque un peu d'Athéna en disant, de toute façon, c'est moi qui file le mieux. Et Athéna est tellement furieuse qu'elle la transforme en... Vous voyez des araignées pour les jouer. C'est pour ça qu'il ne faut pas tuer les araignées. Hein. Parce que vous tuez les araignées quand vous tuez les araignées. Attention. Hein. C'est sérieux, les araignées. Hein. Ça ne se tue pas comme ça, les araignées. Non, c'est une semi-déesse. Hein. Alors, on ne tue pas les araignées. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce tableau, justement?
Encore les trois plans.
Voilà. Les trois plans, plusieurs plans. Et ce qu'il y a d'amusant... Pardon? En abîme, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que cet abîme formel, hein, il y a un premier plan, un deuxième, un troisième, d'une certaine manière. C'est un plan formel, mais il y a également un plan, j'allais dire, pas que formel. Il est quoi aussi le plan?
Thématique.
C'est-à-dire que, et en quoi, il y a une espèce de mise en abîme du thème, là. Voilà. Au premier plan, il y a des fileuses, des vraies, etc. Puis dans le fond, il y a la fileuse mythique, si vous voulez. Hein. Donc toujours cette mise en abîme. Hein. Cette espèce de manière de mettre les plans comme ça, ça vous rappelle quoi? Mettre des plans très compliqués, ça va, ça vient. Ben
voilà.
Ça rappelle les Ménides. Ça rappelle tellement les Ménides que ce tableau, c'est un des derniers tableaux qu'on connaît de Velázquez. Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable dans ce tableau en termes au-delà de cette organisation des plans, hein?
Il est très lumineux.
Extrêmement lumineux. Hein, très lumineux.
Coloré.
Très coloré. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Alors évidemment, c'est difficile de voir une diapo quand on n'est pas devant le tableau, mais au niveau de la manière de peindre.
Ça rappelle certains orientalistes.
Quelque part, oui, c'est vrai. Hein. On pourrait se croire devant Delacroix à Alger, quoi. Hein. Ouais.
Pour celle de devant, parce que derrière, c'est
différent. Ah oui, derrière, c'est différent. Celle de devant, oui, c'est vrai.
Le fond est peint beaucoup plus légèrement.
Oui, le fond est peint très légèrement. Il y a un détail assez marrant.
Le personnage du milieu, un peu.
Oui, un peu trouble, un peu inachevé. Hein, et pourtant, c'est un tableau terminé. Hein.
C'est très mouvementé.
Et très mouvementé. Qu'est-ce qu'il y a de mouvementé, par exemple?
Tous les gestes, tous les...
Et puis, il y a un détail super mouvementé.
Il y a la...
Le rouet.
Le rouet. Regardez le rouet. Il tourne, ouais. On voit même pas les... Parce que, puisqu'il tourne, on voit pas les, les rayons du roi.
La lumière.
Vous avez là un rendu, un traitement, si vous voulez, qui fait que... Alors, c'est terminé, vous avez des éléments qui sont à peine achevés, enfin, alors que ça l'est, si vous voulez. Il y a une volonté comme ça de brosser rapidement. Hein. C'est des touches de couleurs l'une à côté des autres. Et en plus, un rendu du mouvement, hein, qui fait que le rouet, on le voit tourner, quoi. On voit pas les rayons. Hein. Ouais. Ça va beaucoup intéresser qui ?
C'est très moderne.
C'est... Oui. Qu'est-ce qui va beaucoup s'intéresser à ça ? Qui fait que Velázquez a été un peu leur dieu, quoi.
Les impressionnistes.
Les impressionnistes. Et notamment, un des artistes qu'on met toujours avec les impressionnistes, même s'il est un peu avant, si j'ose dire, qui est peut-être le grand admirateur de Velázquez en France. Un artiste impressionniste, mais vraiment du début, qui, quelque part, est même un peu avant eux, d'une certaine manière, et qui ouvre la porte. Ça commence par un M.
Manet.
Manet. Vous connaissez les tableaux de Manet, le Fifre. Fifre de Manet, par exemple. Où vous avez des trucs comme Ésope, etc. C'est-à-dire des personnages devant un fond blême, comme ça, et un personnage... Bref, Manet, quelqu'un, va énormément s'intéresser à Velázquez. Pour lui, Velázquez était le peintre. Hein. Et en fait, tous les impressionnistes sont beaucoup intéressés à lui. En tout cas, voilà un tableau de la fin, effectivement, de la carrière de Velázquez. Allez, encore 5 minutes. Soit facile. D'après coup de vieux, donc on est à l'époque où en effet Velázquez fait nombre de portraits et ça.
Ah ben c'est comme la forge des Vulcains.
Ça c'est comme.
Comme la forge des Vulcains.
Absolument. C'est un tableau qui est comme la forge de Vulcain. Vous rappelez la forge de Vulcain ? Qu'est-ce que ça représente là ? Qu'est-ce que ça représente ? Il y a un vieillard à droite qui a l'air surpris. Le retour de l'enfant. Il est surpris parce qu'il y a l'enfant prodigue qui arrive. Et puis l'enfant prodigue, puisqu'il arrive et que ça fait un moment et qu'il a gardé des cochons et que le linge n'est pas très propre, il amène sur un châle. C'est ça ?
C'est
pour, hein. Ben, je crois que c'est pas ça. D'ailleurs, on voit pas la machine à laver. Ah, ça pourrait être le tour d'Ulysse. Mais je vois pas tellement Pénélope. Le chien d'Ulysse, à mon avis, était plus grand que ça. Qu'est-ce que ça peut être comme histoire ?
Est-ce que c'est un philosophe ?
Il ressemble à un philosophe, mais ça n'en est pas un. Quel est finalement l'élément central de ce tableau ? Ce qui compte là, ce qui dit les choses. Le jeune homme, des jeunes hommes, moi je trouve qu'il y en a beaucoup. Hein.
Il y en a plein de jeunes hommes.
Alors le personnage de droite est très important. Il regarde quelque chose.
Il est étonné de voir tout ça.
Il regarde les vêtements. Ah bah c'est ça que je vous demande.
Joseph et ses frères.
Quelqu'un qui est mort.
Joseph et ses frères. Vous connaissez l'histoire de Joseph et de ses frères, hein. Voilà, hein. Vous savez, Joseph, toujours avec ses frères, ils sont 7, hein. Et puis finalement, manquant d'argent, ils vont vendre Joseph, hein, et revenant chez leur père, ils vont faire croire à leur père que Joseph a été tué, et ils montrent les vêtements de Joseph avec du sang d'une poule à qui ils ont coupé le cou, et là c'est le moment où ils montrent à leur père les vêtements souillés de Joseph. Vous savez que Joseph en fait n'est pas mort, qu'il a été adopté par Pharaon, et que plus tard il retrouvera ses frères après avoir interprété les songes de Pharaon. Voilà. Hein. Donc c'est ça l'histoire de Joseph et de ses frères. C'est le moment où les frères de Joseph... sont là, reviennent auprès de leur père, montrent les vêtements de Joseph à leur père, qui évidemment est un peu surpris parce qu'il a mort avant son fils.
Et Joseph n'est surtout pas là.
Joseph n'est pas là parce qu'il est censé être mort. Mais il y a le père de Joseph à droite. Et vous avez raison, c'est un tableau absolument contemporain, donc voyage italien le premier, de Vulcain. Hein, ok.
Ah oui, reconnu.
C'est très goyesque, ça. Hein. Goya est quelqu'un qui a beaucoup regardé du côté de Velázquez. On voit pourquoi. Hein. Et ça, ça présente quoi ? Eh ben voilà. Alors, il est peut-être moins nain que les autres, celui-là. Mais je dirais que c'est plus qu'un nain. Les nains, ils sont nains parce que physiquement, ils le sont, mais surtout, ils ont quelle statue ? C'est des bouffons. Ben ça, c'est un bouffon. Parce que tous les bouffons ne sont pas nains. Hein. Voilà, hein. On peut être bouffon et pas nain. Hein. Voilà.
Il est accroupi, là.
Donc, ça, là, il est accroupi. Hein. Donc, c'est un de ces personnages-là. Alors, c'est son frère. C'est son frère. Voilà. C'est son frère. Ça, vous le mettriez plutôt du côté du début ou du côté de la fin ?
Du début.
Du début, absolument. Hein. C'est un tableau tout à fait du début de ses portraits royaux. Ah !
C'est Saint Thomas.
Est-ce muy facile ? Si.
C'est
Thomas. Et ça vous rappelle quoi ? Pardon ? Ésope, il était entier. Hein. Là, il est coupé au niveau de ça. Hein. Donc ça rappelle en termes... Vous avez raison, c'est un personnage très contemporain, habillé, et qui joue un rôle. En ce sens, ça rappelle Ésope. Mais vous voyez, Ésope, on voyait jusqu'au pied.
Non, mais du top, c'est Saint-Paul.
Saint-Paul, absolument. Hein. Voilà. Et en fait, ces deux tableaux-là, le Thomas et le Saint-Paul, faisaient partie de ce qu'on appelle un apostolado. C'est un collège apostolique où vous aviez tous les apôtres. Alors, il n'en reste plus que deux connus. Hein. Le Saint-Paul que je vous ai montré, celui-là, qui d'ailleurs appartient au musée d'Orléans. C'est qu'en France, il y a très peu de Velázquez. C'est curieux, d'ailleurs, mais c'est comme ça. Hein. Il y a eu autrefois une collection considérable d'œuvres de Velázquez au Louvre, à l'époque de Louis-Philippe, parce qu'il avait une grosse collection personnelle. Tout ça a été vendu après la chute de Louis-Philippe. Et en France, il n'y a quasiment pas de Velázquez. Il y en a essentiellement deux, un au musée d'Orléans qui est là, et un autre, Peut-être un jour. Alors ça, vous verriez ça quand ?
Ah, ça rappelle l'infant.
L'infant sur son cheval, vous rappelez ? Voilà, absolument. Ça, c'est le fameux Duque de Olivares, vous savez, celui qui a permis à Velázquez d'aller à la cour. Hein, à cause de l'entremise de Pacheco, etc. Hein. Ben voilà, effectivement, c'est un tableau qu'il faut mettre dans la première période des portraits, hein, avec en particulier l'enfant à cheval. C'est la variation sur le thème, hein, le roi. Alors, on voit le roi en rouge, en jaune, en vert, en chasseur, en tout ce qu'on veut. Voilà, c'est à nouveau Philippe IV, on est d'accord. Bon, c'est une matière religieuse, je pense que chacun sait de quoi il s'agit. Velázquez n'a pas fait beaucoup de peintures religieuses, hein, et elles sont assez concentrées. Alors, il y a des peintures comme Saint Thomas, Saint Paul, on les a vues, hein, mais des peintures religieuses, vraiment montrant un signe religieux, il n'y en a pas tant que ça. Vous mettriez, et elles sont très concentrées, vous mettriez ça à côté de quel tableau, si j'ose dire ? Le Christ à la colonne, absolument, c'est exactement la même période, hein, la même phase. Hein. Le Christ à la colonne. Voilà. Alors ça a été fait quand ? Et où ?
Et en Italie.
À Rome, en Italie. À quel moment ?
Le
deuxième voyage de Velázquez. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est un membre de la famille, en plus. C'est un bon fou. Et alors ça, c'est quoi, ça ? Un guerrier. Oula. Un guerrier musclé, oui, ça tombe un peu, tout ça. Alors, c'est qui, ce guerrier musclé ? Ah, un dieu. Vulcain, Alexandre ?
Non, il n'est pas si vieux que ça.
C'est Vulcain, c'est Alexandre ?
Non.
C'est Mars. Vous avez là, Mars. Mais... On a déjà vu tout à l'heure un Bacchus un peu ventripotent. Hein. On a vu un Apollon débarquer dans la forge de Vulcain. Enfin, on est habitué à voir des personnages mythologiques débarquer comme ça. Qu'est-ce qui vous frappe peut-être dans ce tableau-là ? Les couleurs, c'est vrai. Et puis, oui, une musculature un peu tombante, moi, je trouve. Hein. Voilà, toujours le réalisme.
Il est perdu dans
son étoffe. Oui. Oui, il est un peu perdu, encombré dans des étoffes, on a l'impression qu'il a du mal à s'en sortir. Hein.
Très coloré.
Et alors, quelle est l'idée, à votre avis, derrière ça ? Il est...
C'est la guerre.
Oui, c'est ça. Il y a un côté un peu vaincu. Ça, il s'appelle d'ailleurs ce tableau Mars au repos. Celui-là, c'est pas un Mars très... Il roule pas des mécaniques, Mars, là. Hein. C'est un Mars qui a l'air... Voilà. Donc il y a une sorte d'ironie qui est un peu l'équivalent, mais dans l'autre sens, de l'ironie qu'il y avait avec, par exemple, je sais pas, Ésope, tout à l'heure. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà, c'est ça. Il y a un peu une... Là, c'est une ironie qui n'est pas très valorisante pour Mars. Hein. C'est un tableau de la même période, d'ailleurs.
C'est un grand d'Espagne.
C'est le duc de Olivares. Tout à l'heure, on l'a vu à cheval. Là, il est descendu de son cheval. Ça, c'est un tableau du début de la carrière. Vous savez, le moment où les portraits sont encore très sobres, disons. Absolument.
Oh, c'est Sainte-Thérèse d'Avila, non ?
Non, c'est pas Sainte-Thérèse d'Avila. C'est le portrait d'une nonne, hein, qui s'appelle Margarita de las Fuentes, ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, son nom doit être marqué là-haut.
Non.
Non.
Je crois qu'il y a une question
de silence. Et alors, vous mettriez ça quand ?
Au début.
Ouais. C'est un tableau tout à fait du début, ça. Vraiment, on est assez vif, c'est un tableau tout à fait du début. On est dans une palette presque atone. Hein. On est vraiment tout à fait au départ.
Ah ben,
c'est une autre vue de la Vénère Médicis. On est de nouveau dans ce Velázquez italien de la deuxième partie. Ouais. Ça, vous savez qui c'est ? C'est Marie-Thérèse, c'est la femme de Louis XIV. C'est elle, c'est notre reine à nous. Hein ? Avant qu'elle ne vienne en France. En France, elle aura un autre accoutrement.
Ça, c'est le couronnement de la Vierge.
Couronnement de la Vierge, absolument.
Alors, du temps de l'Immaculée Conception.
Absolument. Alors, non, postérieur. Ça, ça date de l'époque du Christ en croix, du Christ à la colonne. Une petite infante de la période, c'est je crois que c'est Marguerite Thérèse. On est à Rome, dans l'entourage du pape. On est d'accord. Ah ben, il a un petit camail bleu, c'est assez sympathique. C'est saignant. Hein. Ouais. Je crois que c'est le camérier du pape. Absolument. Là, on est tout à fait au début du départ.
Ça rappelle l'Auvergne.
Ouais, il pouvait tout à fait prendre des modèles, effectivement. Hein. Ouais, ouais. Oui, oui.
Oui,
il y en a notamment dans la période sévillane, on voit des personnages d'un tableau à l'autre. Absolument. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Très beau nu féminin, n'est-ce pas ? Vénus, vous avez raison. C'est Vénus, pourquoi ? Voilà, il y a l'amour, hein, donc ça c'est facile. Hein. Voilà, alors ça fait beaucoup penser à Titien. Ce tableau, à votre avis, il a été fait où et quand ?
En Italie.
Ben voilà, il a été fait sans doute à la fin du deuxième voyage italien. Hein. On voit bien, ah oui, c'est extraordinaire. Et là aussi, vous connaissez, par exemple, l'Olympia de Manet.
Oui,
oui. Manet a probablement vu ça. Etc. Donc c'est un tableau qui à la fois vient de Titien, etc. Hein, mais, j'allais dire, appelle une peinture à venir, notamment ça.
Et ça allait dans les collections du roi, ça ?
Oui. Enfin, là, en l'occurrence, ça, c'est pas allé dans la collection royale, mais ça aurait pu. Oh, oui. Rubens, ça fait pire, si j'ose dire. Ouais. Ouais. Ça, c'est un des enfants qui a vécu 4 ans. Le pauvre. Donc, ah oui, oui, il était... Mais la consanguinité a fait des ravages dans la famille royale espagnole. Ça a été terrible. Et voilà. Alors, on s'arrête là, mais sur le diaporama que vous aurez sur Internet dans quelques semaines, vous trouverez tout ça. Mais vous trouverez les tableaux que je viens de vous montrer, ceux de la deuxième partie, remis en place avec ceux de la première. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? C'est-à-dire, vous trouverez, là, je n'ai pas le temps de vous le montrer parce que je ne sais jamais exactement combien de temps tout ça va prendre, hein, mais vous trouverez, si vous voulez, le fil reconstitué. Hein, vous trouverez chacune des 6 parties avec à chaque fois les tableaux qu'on a vus au départ et les tableaux qu'on a vus à la fin, à leur place. Vous voyez ce que je veux dire, hein, voilà.
Alors, on cherche ça où, dans l'atelier, dans l'atelier.
Alors, ça, je ne sais pas.
Si.
Oui, l'assemblée où?
Alors, atelier.
Atelier. C'est pas d'une conférence.
Et donc, on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on reparlera du 17e, mais moins de Velázquez. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parlera pas. Mais maintenant que vous connaissez plus de Velázquez, ça va être facile. Hein. Voilà, et pensez à la semaine